Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate. Bonjour Jean-Marie.
Bonjour Christophe.
Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Salut Alain.
Bonjour Christophe.
Une guerre existentielle pour la France et pour l'Europe, une guerre que la Russie ne peut pas et ne doit pas gagner. Ce jeudi 14 mars, le président français Emmanuel Macron a précisé ses intentions quant à l'application de Paris dans la guerre menée par Moscou en Ukraine. Celui qui, en 2022, appelait à ne pas humilier la Russie, semble avoir tourné Kazakh et l'assure, pour que la paix règne, il ne faut pas faiblir face à Vladimir Poutine. Quand dans l'opposition, on accuse le président français de choisir une posture guerrière à des fins électorales en vue des européennes de juin prochain, celui-ci cite Churchill « Aujourd'hui, il faut l'honneur de la paix ». Il assure que la sécurité de l'Europe et celle des Français se jouent là-bas, et enfin que la paix ce n'est ni la capitulation ni l'amputation de l'Ukraine. Rien n'est à exclure donc pour protéger l'Ukraine, en tout cas pour l'exécutif, car deux jours auparavant, c'était un parlement divisé qui se prononçait en faveur des accords bilatéraux de sécurité avec Kiev lors d'un vote non contraignant. 372 voix pour, 99 contre, LFI communiste et un vert, 101 abstention dont la majorité est le fait du RN. Des lignes de fracture qui ne font que confirmer les penchants pro-russes de l'extrême droite d'un côté et de l'extrême gauche de l'autre. Alors comment expliquer cette volte-face présidentielle, si volte-face il y a ? D'où vient cette indulgence d'une partie de la classe politique française à l'endroit de Vladimir Poutine ? On en parle aujourd'hui avec Elsa Vidal, rédactrice en chef de la rédaction en langue russe de RFI et autrice de l'essai « La fascination russe » chez Robert Laffont. Bonjour à vous.
Bonjour.
Elsa Vidal, vous avez écouté le président français hier. Vous qui analysez en profondeur sa stratégie avec Poutine dans votre ouvrage depuis 2022, même avant, que retenez-vous de son intervention ?
Je retiens qu'elle vient enfoncer un clou, et je l'espère définitivement, dans l'évolution de la position française vis-à-vis et de Moscou et de l'Ukraine, et partant de là, de tous les États est-européens qui nous ont rejoints dans l'Union. Et que ce changement, c'est un véritable pivot historique qui va peut-être déplacer le centre de gravité de l'Europe, mais qui en tout cas vient refonder la relation franco-russe en puisant certainement dans une autre partie de notre héritage historique. Et je pense qu'on a vécu un moment un peu gaullien hier. Et personnellement, c'est effectivement quelque chose que j'appelais depuis longtemps de mes voeux, mais je suis pas du tout seule dans cette position. Je pense que la plupart des connaisseurs de la Russie étaient dans ce genre d'attente.
Il faut rappeler que, au début de son mandat, le président Macron tente de tisser des liens avec Vladimir Poutine. Il tente la stratégie de ce que vous appelez le reset dans votre livre. C'est quoi cette stratégie du reset ?
L'idée, c'est de finalement faire mieux que Barack Obama en 2013 et d'arriver à relancer sur une base saine, qui n'est pas très bien définie d'ailleurs, les relations entre la France et la Russie, marquées par une grosse inflexion du fait de l'annexion de la Crimée et des sanctions qui ont été prises. Et il s'agit donc de pouvoir faire fond sur nos intérêts communs pour dépasser ces difficultés qui sont minorées. Une habitude qui vient de très très loin, puisque dans les recherches que j'ai pu faire pour le livre, j'ai découvert que le premier reset, la première relance, date de 1867, quand la Pologne se soulève contre l'Empire russe, mais que la France, elle, est à la recherche d'un allié pour contrer l'essor de la Prusse, et cet allié, c'est la Russie.
Jean-Marie, vous avez écouté le président, vous, hier soir aussi, vous en avez pensé quoi de son intervention ?
Que c'était d'abord une intervention bienvenue, parce qu'il intervient à un moment où l'opinion est en train de flancher. Pas définitivement, parce que l'opinion française continue de considérer qu'il faut aider l'Ukraine. Ça, c'est l'article 1. Mais l'article 2, qui s'installe de plus en plus, c'est de dire « oui, mais on ne fait rien ». En gros, la position du Rassemblement national. On ne fait rien parce que quand on dit « oui, mais il faut quand même augmenter les livraisons d'armes à l'Ukraine », à ce moment-là, on a à peu près match nul, à peu près 50-50. Donc, c'est un effritement par rapport au point de départ où l'opinion soutenait totalement le fait non seulement de considérer que l'Ukraine était agressée, mais aussi qu'il fallait la défendre et donc il fallait l'armer. Donc, il intervient à ce moment précis de l'évolution de l'opinion et donc c'est en cela que c'est bienvenu. Et c'est d'autant plus bienvenu que toute l'attention était focalisée sur une formule, sa fameuse formule sur les troupes au sol. Alors même qu'on sait très bien qu'il ne s'agissait pas du régiment d'infanterie de marine à envoyer sur place, mais que c'était beaucoup plus des aides techniques qui sont nécessaires pour servir les équipements qu'on leur envoie, notamment les missiles. Le débat était littéralement enfermé dans ce domaine. Et donc pour Emmanuel Macron, c'était une façon de rétablir au fond ou tenter de rétablir, d'abord d'expliquer aux Français quelle était vraiment la position de la France, en quoi elle était justifiée. Elle repose sur une idée simple, que ce qui se passe en Ukraine concerne la sécurité de l'Europe et de la France. Bon, d'une part, et d'autre part, l'idée qu'il faut rétablir une forme de dissuasion. Et pour rétablir une forme de dissuasion, il faut réinstaller une, ce que les militaires appellent une ambiguïté stratégique, c'est-à-dire on ne dit pas quelles sont nos lignes rouges, comme on dit. On ne le dit pas, parce que si on le dit, on concède sa propre faiblesse. Donc il a bien réexpliqué ça et bien clarifié cet aspect des choses, je pense.
Alain ? Ce qu'il y a d'intéressant, je trouve, pour sortir un petit peu du strict cadre de l'Hexagone, c'est que quelques heures avant que le président Macron ne s'exprime à la télévision, au fond, Poutine avait répondu lui-même à la télévision publique russe au camp des Français, des partis français qui disent « Non, mais il faut pas faire ça, faut négocier. Il faut négocier tout de suite, faut arrêter la guerre et faut négocier. » Alors on pose la même question à Vladimir Poutine quelques heures avant que ne parle le président français et Poutine répond « Non, je n'ai rien à négocier et je vois pas pourquoi c'est pas maintenant qu'on va me demander de négocier alors qu'ils n'ont plus de munitions. C'est pas du tout le moment de négocier, c'est le moment d'attaquer. On sait qui veut Odessa, hein, on sait qui veut l'ensemble du Donbass, il n'a pas encore pris tout le Donbass, cette longue barrière orientale à l'est de l'Ukraine qui fait la frontière avec la Russie. Alors d'une certaine façon, Poutine lui-même dit à tous ces gens qui sont à l'extrême droite ou à l'extrême gauche en France, ou ailleurs d'ailleurs même, disent il faut négocier, et il faut pas choisir la confrontation telle que l'a présentée le président Macron. Eh bien, Poutine a répondu, je n'ai aucunement l'intention de négocier, et d'autant moins qu'ils ont des problèmes de munitions en ce moment, ils, les Ukrainiens.
Oui, le président Macron a rappelé hier justement que quand 10 obus étaient tirés du côté russe, un seul était tiré du côté ukrainien. Il a rappelé cette asymétrie en termes d'équipement. Vous avez utilisé le mot gaulien, Elsa Vidal. Vous expliquez dans votre livre comment beaucoup de pro-russes en France se revendiquent de l'héritage de Charles de Gaulle et confondent parfois soumission au Kremlin et indépendance stratégique française vis-à-vis de Washington. Vous rappelez que de Gaulle disait, je cite, « À un certain point de menace de la part d'un impérialisme ambitieux, tout recul a pour effet de surexciter l'agresseur, de le pousser à redoubler sa pression et finalement facilite et hâte son assaut. Est-ce que quand Emmanuel Macron prend les positions qu'il a prises hier, il prend acte de cette citation de De Gaulle ?
Je pense que oui, et je pense aussi qu'il pense peut-être à François Mitterrand qui, lors de la crise des euromissiles, avait aussi rappelé à l'Union soviétique qu'en définitive, la responsabilité de l'agression pèserait sur les épaules des dirigeants soviétiques et que la France restait fidèle à l'Alliance. Mais ce qui est très intéressant dans l'héritage gaullien et parfois qu'on dit gaullo-mitterrandiste, même si je ne suis pas sûre que cette chose existe en termes de théorie politique à proprement parler, c'est que nous avons en France une mémoire extrêmement sélective et extrêmement campiste des positions du général de Gaulle. Et en ce qui concerne les soutiens à la Russie, ils sont plus souvent évoqués, ces propos ou aussi ces moments décisifs gaulliens, pour au contraire justifier un alignement sur la Russie qui nous défendrait d'une soumission aux États-Unis. Donc ils viennent activer surtout un anti-américanisme qui ne dit que très rarement son nom dans les détails, mais on nomme toujours l'Irak, l'Afghanistan, pour expliquer pourquoi il vaut mieux s'appuyer sur la Russie, qui constituerait un danger stratégique moindre. Je pense qu'à l'heure actuelle, il est difficile toutefois de s'en tenir à cette thèse. Donc je suis encore une fois surprise et heureusement surprise de trouver de la fermeté et peut-être la volonté d'incarner un leadership qui soit capable d'instaurer un rapport de force avec Vladimir Poutine. Je pense que très honnêtement, même si on est convaincu que la négociation s'imposera un jour, peut-être, le meilleur moyen de l'aborder et de pouvoir ouvrir cette négociation par un canal diplomatique, c'est de pouvoir, sur la scène politique et publique, faire entendre aux dirigeants que la France n'est pas non plus un paillasson et que toutes les activités subversives, agressives, hostiles, entreprises par le régime de Vladimir Poutine font que nous sommes obligés de retirer le capital diplomatique que jusque-là nous tenions à sa disposition.
Oui, parce qu'on rappelle souvent que le général de Gaulle a retiré la France du commandement intégré de l'OTAN en 1966. Mais pas de l'OTAN. En revanche, ce qu'on oublie de préciser, c'est qu'il était aussi très ferme avec l'Union soviétique et que quand menace nucléaire il y avait envers la France, lui-même répondait avec une grande fermeté.
Oui, notamment quand il répond à l'ambassadeur soviétique à Paris qui doute de l'efficacité de la dissuasion nucléaire française et qui essaye d'impressionner le général de Gaulle par la menace nucléaire soviétique. Et de Gaulle lui répond sans embâge, véritablement de manière beaucoup plus brutale qu'aujourd'hui, eh bien nous mourrons ensemble, monsieur l'ambassadeur. Et aujourd'hui, on aurait peine à imaginer une telle capacité de confrontation. Je rappelle que même lorsque Charles de Gaulle est en Union soviétique pour essayer de gagner le soutien soviétique à son avenir de représentant de la France libre, jusqu'au dernier moment, Staline fait monter les enchères et plutôt que de céder, Charles de Gaulle se prépare à quitter l'Union soviétique en n'ayant pas obtenu le soutien. Et c'est à ce moment-là que Staline rend en quelque sorte les armes et valide la candidature de Charles de Gaulle en tant que représentant de la France libre, en lui disant, il moque son négociateur soviétique, il dit « t'as bien eu », et en disant à Charles de Gaulle « Ok, vous êtes bien battu. Je préfère ceux qui se battent pour leur cause que ceux qui s'allongent tout de suite. » Et c'est là la double tromperie pour ceux qui, en plus, se prétendent souverainistes et qui voient en la Russie peut-être l'incarnation à la fois d'un régime et d'un leader fort. Ils se trompent s'ils croient qu'ils seront récompensés par ce type de régime, en fait. Ce type de régime abhorre les traîtres. Véritablement, il n'y a pas d'avenir pour ces gens-là dans un régime russe. Donc il ne faut pas imaginer gagner en réputation ou en capacité ensuite à faire des affaires avec les Russes.
Cette nouvelle manière d'envisager la guerre entre la Russie et l'Ukraine par le président Macron, pour vous Jean-Marie, c'est est-ce que, comme le dit l'opposition, un opportunisme électoraliste en vue des Européennes ou est-ce que c'est le fruit d'une réflexion plus profonde ?
On peut difficilement nier que ce soit l'évolution de la pensée sur ce qui se passe. Et que vraiment l'histoire des élections européennes, c'est une histoire seconde par rapport à ce qui se passe. Et il faut ramener ça à ce qu'a été l'évolution propre d'Emmanuel Macron, puisqu'au départ, il l'a parfaitement rappelé à la télévision, au départ, il est de ceux qui considèrent qu'il faut non seulement maintenir le dialogue avec Vladimir Poutine, mais il a même inauguré ce qu'il a appelé un partenariat stratégique, qui n'a jamais eu de contenu concret ensuite d'ailleurs, mais ce partenariat stratégique célébré à Brégançon par la réception de Vladimir Poutine au fort de Brégançon, c'était l'axe de la politique d'Emmanuel Macron qui se voulait en rupture avec l'attitude de François Hollande, donc du prédécesseur d'Emmanuel Macron, lesquels étaient accusés par Emmanuel Macron d'avoir été trop loin de ce partenariat avec la Russie et d'être donc coupable de ne pas avoir pris les bonnes positions. Maintenant, il a changé de discours un peu sur François Hollande, Emmanuel Macron, mais néanmoins, à l'époque, c'était cela. Donc, Emmanuel Macron, à juste titre, d'ailleurs, a rappelé qu'il a beaucoup fait d'efforts, il a fait des efforts permanents et évidemment, à chaque fois, non couronnés de succès. Donc, on peut même penser que au bout de la route, Emmanuel Macron a été quelque peu humilié par la façon dont Poutine l'a traité, alors que même lui voulait se placer en avant de ce qui serait une négociation avec Poutine pour empêcher la guerre. Il n'a pas empêché la guerre et il n'a pas empêché en effet que la Russie se tourne très résolument contre les intérêts français, ou que ce soit en Europe ou en Afrique. Donc voilà, donc c'est le fond de l'affaire, le fond de l'évolution d'Emmanuel Macron. Après, l'histoire des élections européennes, je veux dire, c'est quasi mécanique. Quand on prend des décisions, il y a des gens qui s'y opposent, donc on peut baptiser ça instrumentalisation, mais c'est... Non, en revanche, ce qui serait probablement de mauvaise politique tactique, là, c'est de focaliser la campagne des européennes sur un dialogue ou un duel, plus exactement, entre les macronistes et le Rassemblement national. Parce que d'abord, ça valoriserait considérablement le Rassemblement national et ce serait vraiment passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est d'essayer que l'opinion française prenne la mesure de ce qui se passe, prenne la mesure des menaces qui pèsent aujourd'hui sur notre sécurité et revienne à une ligne qui est celle d'ailleurs que l'on défend, qui est non seulement il faut soutenir l'Ukraine, mais il faut la soutenir concrètement et plus rapidement que nous ne le faisons aujourd'hui.
Vous faites remonter, vous, la bascule dans l'esprit d'Emmanuel Macron à juin 2023 et à une conférence à Bratislava. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
En juin 2023, au Forum Globsec de Bratislava, Emmanuel Macron, pour la première fois, s'empare et incarne un discours qui fait enfin la part belle à l'histoire, et notamment géopolitique, mais aussi nationale, de tous ces États que jusque-là, la relation franco-russe oblitérait. Ces États qui se trouvent précisément entre nous et Moscou et qui ont vécu à des degrés divers de leurs histoires sous la domination de Moscou. Et subitement, ces États font leur retour, ou leur arrivée plutôt, leur entrée dans le discours du président français qui leur donne droit de cité et qui fait enfin place à leur compréhension et à leurs alarmes vis-à-vis de la Russie, alors qu'avant, par exemple, des présidents comme Jacques Chirac ou comme Nicolas Sarkozy minimisaient toujours les alertes données par ces États et les renvoyaient à une forme un peu d'atavisme. Quoi. Vous êtes en proximité de Moscou, ah oui, c'est vrai, vous avez des griefs, vous avez des litiges, ça c'est ce que j'ai lu récemment, on parle de litiges à leur sujet. Non, on peut pas parler de litiges quand il s'agit de colonisation, de domination, d'intégration de forces dans un ensemble géopolitique comme a pu être l'URSS. Et ce ne sont pas des litiges. Et donc ces États font enfin leur apparition et Emmanuel Macron leur donne, verbalement du moins, des gages d'engagement à leur côté, de présence française. Et c'est le début de la longue marche vers l'Ukraine, à mon sens. Et je ne sais pas encore à ce jour qui a impulsé, nourri ou peut-être même rédigé ce discours. Je n'ai pas posé la question en soi, mais je me pose la question parce qu'il y a là le début d'une très forte inflexion qui a l'air de se confirmer. J'espère qu'elle se confirmera. Je pense que véritablement, il n'y a qu'un discours assez confrontationnel, sans être agressif, qui puisse attirer l'attention et gagner le respect de Vladimir Poutine.
Est-ce que, Alain, pour vous, il y a peut-être aussi une perte de l'influence des réseaux pro-russes qu'il peut y avoir au Quai d'Orsay ou dans l'armée ?
Ça, c'est possible. Enfin, je ne saurais pas l'évaluer. C'est vrai que si vous prenez le président Sarkozy ou le président Chirac même, j'ai souvent été dans des briefings à des sommets du G7, puis plus tard du G8 avec la Russie, et avant même avec ces deux hommes. Ces deux hommes avaient sans arrêt cette espèce de phrase clé qui semblait déterminer le type de relation que nous avions avec la Russie. C'était « il ne faut pas humilier les Russes ». Ils ont subi un traumatisme gigantesque avec la perte de l'Union soviétique, cette forme de décolonisation. Hein. On s'en est tous remis, les Britanniques et les Français, on s'en est très bien remis. C'est à partir de la décolonisation même de ce début des années 60 que la France et la Grande-Bretagne deviennent des social-démocrates avancée, eh bien non, dans le cas de la Russie, il ne fallait pas l'humilier. Et à ce moment-là, il y avait un très grand... Je suivais souvent un grand professeur de relations internationales, de philosophie politique, enfin, c'était un homme d'une culture gigantesque, qui était Pierre Hassner, et qui était un des élèves, l'élève favori du grand professeur Raymond Aron, le maître de la pensée pendant la guerre froide. Et Pierre Hassner disait, lui qui était un juif de Roumanie, hein, et qui avait gagné la France à l'âge de 13 ans, avec ses parents. Eh bien, Hassner disait « Je ne supporte plus d'entendre cette phrase, il ne faut pas humilier la Russie, parce que nous, les petits peuples, nous, c'est nous qui avons été humiliés par les Russes. Et si vous voulez savoir pourquoi les gens veulent rentrer dans l'OTAN, c'est parce qu'ils ont été humiliés par les Russes. Non seulement humiliés, comme vous le disiez, mais déportés, torturés, emprisonnés, niés dans leur identité nationale et culturelle. » Eh bien, c'est vrai que j'ai toujours entendu ce discours, il ne faut pas humilier les Russes, comme si leur ego était d'une telle sensibilité ou leur génétique ne permettait pas d'avoir à se remettre en cause. On a fini par décider ensemble avec les Russes des frontières de l'Europe. C'est ça l'enjeu. Je veux dire, l'enjeu de cette élection européenne, du Parlement européen, il est là. Est-ce qu'on respecte ou pas les frontières de l'Europe ? C'est-à-dire à terme aussi les nôtres.
La formule « il ne faut pas humilier la Russie », c'est l'article 1 de l'anti-américanisme. Parce que quand on dit « il ne faut pas humilier la Russie », on fait référence à ce qui aurait été, de la part des États-Unis, une attitude destinée à humilier les Russes lorsque les Russes sont sortis du communisme et du soviétisme. Et donc on fait grief aux États-Unis d'avoir promis de ne pas élargir l'OTAN, de l'avoir fait, et donc d'avoir fait des erreurs tragiques de cette nature qui justifieraient ou qui expliqueraient aujourd'hui l'attitude de Poutine, cherchant à reconstituer son glacis alors que les Américains les auraient privés de ce glacis. C'est vraiment le credo anti-américain se résume en une formule, il ne faut pas humilier la Russie. C'est en cela d'ailleurs qu'Emmanuel Macron faisait fausse route, mais vraiment fondamentalement fausse route, et qu'il est heureux qu'il revienne aujourd'hui à des notions de la dissuasion et de notre situation d'allié qui soient plus conformes, en effet, à ce qu'avait défini De Gaulle lui-même et non pas ce que l'on prête à De Gaulle.
Vous expliquez bien hein, comment les pro-russes utilisent les erreurs stratégiques américaines en Irak, notamment pour justifier les actes russes. Je voudrais revenir sur une chose qu'a dit Alain. Il a dit « on s'en est remis, nous, Français, de la perte de notre empire colonial ». Et pourtant, c'est pas tout à fait ce que vous dites, vous, dans votre livre. Vous expliquez que la fascination que certains peuvent avoir pour la Russie, c'est cette parenté qu'on a de perte d'influence et qui s'est jouée par deux fois autant en France qu'en Russie, et que c'est ça qui rapprocherait certains souverainistes ou certains déclinistes.
Oui, je pense que dans l'ensemble, la France a évolué grâce à la perte de cet empire, et c'est grâce à la perte de l'empire que nous avons pu devenir la démocratie que nous sommes et que nous continuons aujourd'hui à approfondir notre démocratie en revenant d'ailleurs sur notre passé colonial, parce que c'est un exercice difficile, douloureux, qu'il faut faire à plusieurs reprises et nous le faisons. Et effectivement, il y a quand même des segments de la population française, principalement dans certaines institutions que sont l'armée, les services de renseignement, la haute fonction publique, une partie de notre aristocratie ou de ceux qui voudraient se penser comme faisant partie de cette population-là, qui regrette la grandeur et qui regrette l'Empire. Et c'est vrai que l'Empire français, donc on l'a perdu par deux fois, on pense toujours à la décolonisation des années 60, mais auparavant, au XVIIIe siècle, nous avons déjà perdu une partie de notre Empire, et c'était la partie qui est aux États-Unis. Peut-être d'ailleurs que ça nourrit un grief vis-à-vis des États-Unis en France, mais pour ce qui est de la Russie, ça nourrit quand même l'envie. Pourquoi ? Parce que la Russie a perdu et recouvré son Empire déjà une première fois, à l'époque de l'avènement de la Révolution. Elle l'a perdu et recouvré par la force, par les bolcheviks qui ont, comme un rouleau compresseur, récupéré tous les peuples qui s'étaient enfuis de l'Empire qu'on appelait la prison des peuples. Donc je rappelle que les Ukrainiens ont fait leur révolution nationale, les Arméniens l'avaient fait, d'autres peuples l'ont fait, et ils ont été réincorporés dans ce qui est devenu l'URSS. Et puis, donc nous l'avons vu à la fin des années, au début, en 92, la disparition de l'URSS. Et là, Vladimir Poutine fait ce qu'il peut, non pas pour recréer l'URSS, mais pour récupérer la puissance d'influence. Et ça, je pense qu'il y a des gens chez qui ça a un effet d'attraction énorme, mais ne nous y trompons pas. Les gens qui sont attirés par cela, par ce type de gouvernance, n'ont pas de projet démocratique pour la France. Ils sont en faveur d'une gouvernance autoritaire, verticale, hiérarchisée, où certainement l'ordre supplante la liberté et il n'y a pas de place pour l'égalité.
C'est ce qu'on voit dans le vote de mardi.
Moi, j'ai trouvé ce vote plutôt rassurant, parce que malgré tout, il y a eu de fortes majorités pour approuver l'accord avec l'Ukraine. Et l'autre fait marquant, c'est évidemment l'abstention du... Je passe sur LFI, parce que la France insoumise, je dirais, ils se marginalisent de plus en plus, et donc leur voix compte de moins en moins, d'une certaine façon. Mais le Rassemblement national, qui pèse d'un poids de plus en plus fort et de plus en plus écrasant, qu'il se soit abstenu, c'était plutôt une bonne chose, parce que ça montre quand même qu'on ne peut pas prétendre dire, comme l'a fait Marine Le Pen, il faut défendre l'Ukraine, et la minute d'après dire « je m'abstiens ». Donc je m'abstiens de défendre l'Ukraine. Donc de ce point de vue-là, il y a eu une clarification qui était bienvenue. Mais pour rebondir un peu sur ce que disait Elsa à l'instant, en général on dit l'Union européenne, elle a été créée pour assurer la paix entre les Européens. Mais fondamentalement, le mouvement vers l'Union européenne, vers la construction européenne, puis l'Union européenne, ça vient très directement de la perte des empires coloniaux. C'est la façon que l'on a eue de transformer une situation qui était une situation de défaite et de déclin en une situation de construction d'un avenir meilleur et plus prospère, et ainsi de suite. Vous noterez que tous ceux qui sont en fait anti-européens sont en fait nostalgiques, notamment nostalgiques des empires coloniaux, notamment de... Et donc, on y trouve là cette trace dans leur racisme qui souvent s'exprime, mais on trouve aussi cette trace dans l'attitude critique vis-à-vis de l'Union européenne. L'Union européenne, la construction européenne, est directement le fruit de la perte des empires coloniaux. C'est vrai de l'Espagne, c'est vrai du Portugal, c'est vrai de la France, c'est vrai de la Grande-Bretagne. Donc je pense qu'il faut aussi avoir ça en tête.
Et en termes politiques, je pense que si on continue dans cette lignée-là, il est très important de comprendre que si on renonce à l'Empire, et c'est quand on renonce à l'Empire qu'on peut enfin mettre toute l'énergie dans la construction d'une société et d'une gouvernance qui soit au service des citoyens, c'est une véritable démocratie qui peut enfin commencer à s'élaborer. Et c'est justement ce que Vladimir Poutine ne veut pas voir en Russie, puisque la nature du pouvoir qu'il exerce sur la Russie, du contrôle qu'il exerce sur la Russie, est strictement opposée à l'idée démocratique. Il y a un lien intrinsèque. L'impérialisme et la projection de force à l'extérieur, c'est pour empêcher, détourner le regard, mais empêcher d'avoir à produire une gouvernance qui doive rendre des comptes à l'intérieur. Et ça, on ne peut pas avoir l'un et l'autre. Et c'est pour ça que les électeurs français qui pensent que dans le RN, il y a une poursuite peut-être du rétablissement de la grandeur, il y a une souveraineté, ils se trompent. Le projet impérial, le projet de force, privera les électeurs français de liberté dont ils jouissent aujourd'hui.
Alain ?
Oui, on peut ajouter aussi que chez ces électeurs ou chez les partis qui prônent cette manière de politique à l'adresse de la Russie, il y a la nostalgie de ce qu'a pu être, pendant la guerre froide, entre le camp occidental et l'Union soviétique, une singularité française. Nous avions quitté le commandement intégré de l'OTAN, qui est un état-major permanent, en fait, qui facilite les opérations ensemble, auquel on est toujours libre d'aller ou de ne pas aller, et même d'en sortir si elles ne nous plaisent pas. Donc il n'y a pas de pacte moins contraignant que l'OTAN. Alors on en sort essentiellement parce que l'arme nucléaire française était arrivée à maturité. Il s'agissait de donner tout son crédit à la dissuasion nucléaire française. C'était ça la raison pour sortir du commandement intégré. Mais bien entendu, nous restions dans le pacte atlantique, nous étions fidèles. Et d'ailleurs, à peine était-on sorti du commandement intégré de l'OTAN, que suit une série de pactes franco-américains étalés sur 3 ans, et les uns après les autres, rétablissant toutes les relations d'état-major qu'on pouvait imaginer avant, lorsque nous étions dans le commandement intégré. Donc là, il y a une sorte comme ça de manipulation qui s'est passée. Mais on pensait qu'on était un peu le mouton noir du camp occidental. Donc on était, certes, on était avec les Américains, mais on était aussi amis avec les Soviétiques. Et on pensait que ça nous donnait une marge d'action et qui faisait que la voix de la France était plus entendue dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, par exemple. Et puis tout cela a changé, bien entendu. Tout cela a complètement changé, qui fait que Jacques Chirac le premier avait pensé à réintégrer le commandement intégré. C'est Sarkozy qui le fera, mais Jacques Chirac y avait pensé lui aussi, essentiellement pour des raisons pratiques et de simplicité militaire. Mais on a pensé qu'on perdait là ce qui faisait la singularité de la France et qui faisait que, soi-disant, sa voix comptait plus que celle des autres pays occidentaux, à l'exception des États-Unis. Je crois que tout ce que nous montre Vladimir Poutine, c'est que c'était un leurre. Ça n'a aucun sens. Jamais la France n'a été privilégiée dans les relations que Moscou, en tout cas le régime de Vladimir Poutine, a entretenues avec les pays étrangers. Jamais la France n'a bénéficié d'une écoute particulière à Moscou parce qu'elle avait un discours « il ne faut pas humilier la Russie ». Ou alors, mettons les preuves sur la table que nous avons eu de meilleurs résultats commerciaux, politiques, diplomatiques, culturels, tout ce que vous voulez que les autres, parce que notre philosophie c'était « il ne faut pas humilier les Russes ». Il ne faut pas humilier les Russes, ils n'ont pas rendu la monnaie de notre pièce.
Et c'est votre thèse que vous exposez dans le livre en expliquant que Poutine se sert de la France pour atteindre Washington, mais pas vraiment pour créer des relations avec la France. Je voudrais revenir pour terminer, vous parliez du projet de Poutine pour la Russie qui n'est absolument pas démocratique. L'élection présidentielle russe débute ce vendredi 15 mars jusqu'au dimanche 17. Il ne fait aucun doute que Poutine sera réélu, d'abord parce qu'il n'y a pas d'opposition, mais aussi pour aller plus loin, peut-être parce qu'il convient finalement à une certaine vision de la société par la Russie. Vous expliquez dans votre livre que pour comprendre les Russes, il faut comprendre qu'ils font preuve d'un certain pessimisme anthropologique. La nature humaine est mauvaise, le monde est chaotique, et tout cela, dites-vous, ne peut être contenu que par une violence légitime. Et là, je vous cite, vous écrivez « Le pouvoir est un mal nécessaire contre un péril plus grand ». L'autoritarisme est-il une fatalité russe pour vous, Elsa Vidal ?
Non, je ne pense pas du tout. Je pense qu'aucune nation n'est par nature condamnée à répéter ou à poursuivre un chemin, quand bien même ce chemin aurait été historiquement millénaire. Il y a nécessairement des voies de développement, mais qui proviennent aussi du noyau central de la culture concernée, rarement de l'extérieur, à l'exclusion peut-être quand même de la révolution bolchevique, qui est un phénomène européen plaqué sur la société russe. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a dans la société du fait de sa coexistence avec un pouvoir dont elle pense qu'elle ne peut pas se passer, sauf à accepter un chaos plus fondamental qui fondrait sur elle. Il y a une culture qui s'est développée dans la population qui, pour le moment, fait obstacle à une mobilisation plus collective et à la capacité de n'importe quel Russe à se reconnaître dans n'importe quel autre Russe. Et donc, cet obstacle, ça consiste à dire que, bon, donc, vous l'avez dit, les autorités sont par nature corrompues parce que le pouvoir corrompt, et il existe en marge du pouvoir une société des hommes un peu plus pure, non corrompue, et ces hommes-là procèdent de manière très morale, font de bonnes actions et procèdent par solidarité d'humain à humain. Donc il y a une grande défiance vis-à-vis des institutions politiques. On peut comprendre que 80 ans de communisme défiaient quand même les gens et qu'ils aient perdu toute croyance dans un discours politique sincère. Plus les discours sont élaborés, conceptuels et en appellent au bien de l'humanité, pire la réaction est du côté de la population qui s'en défie encore plus. Donc la première chose à faire, je pense, pour envisager un changement politique qui vienne de la base, de la population, ce serait qu'elle puisse dépasser ces catégories ou renouveler ces catégories. Dans une certaine mesure, la disparition d'Alexeï Navalny m'a amené à entendre parfois des ressortissants russes dire « nous, la population, nous les Russes », quelque chose que j'entends très rarement dans le champ politique. Et je ne veux pas dire par là que dimanche, il va y avoir une insurrection en Russie, je pense que rien ne permet de le dire. En revanche, je pense qu'il y a des changements qui ont été initiés. Il se trouve qu'à l'heure actuelle, ils sont dans les circonstances les plus difficiles pour pouvoir s'exprimer. Mais nous avons, nous aussi, une carte à jouer. Je pense que le président Macron a laissé entendre qu'il ne l'avait pas encore fait, mais qu'il le considérait, quand il a dit dans son discours que quand nous serons amenés à négocier avec le représentant de la Russie, Vladimir Poutine, ou un autre, eh bien, effectivement, les alliés de l'Ukraine pourraient à un moment considérer que Vladimir Poutine n'est pas le président légitimement élu de la Russie et lui retirer cette qualité. Je pense que là aussi, il s'agit de quelque chose à quoi Vladimir Poutine serait extrêmement sensible.
Merci Elsa Vidal, je rappelle votre essai La fascination russe chez Robert Laffont. C'est essentiel et instructif. J'encourage tous les auditeurs et auditrices à le lire pour comprendre qui parle et d'où on parle, surtout c'est très important en ces temps-ci. Alain, votre chronique chaque jeudi dans Le Monde et sur lemonde.fr, et cette semaine vous nous parlez.
Je compare la situation électorale de Joe Biden à celle de Harry Truman en 1948, qui était encore plus impopulaire que Joe Biden, mais qui dans les trois derniers mois, vous savez, il assurait la présidence parce qu'il était vice président du temps de Roosevelt, qui est mort en avril 45, donc il assurait la vice-présidence, mais il voulait devenir vraiment président élu, donc il se présente en 48, et le Parti démocrate est complètement pessimiste, pense qu'ils vont aller à la catastrophe. Il a rétabli la situation dans les trois derniers mois.
C'est la première remontada à laquelle il faut penser.
Jean-Marie, vous, je rappelle votre émission politique le jeudi aussi sur France 24, et au menu cette semaine
la grève, donc il n'y a pas eu d'émission.
Très bien, on vous retrouvera la semaine prochaine sur France 24. Merci à tous les trois et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde Devant Soi.
Au revoir Christophe.
Au revoir Christophe.
Le Monde Devant Soi est un podcast produit par Slate Podcast avec Jean-Marie Colombani et Alain Frachon. Direction, production éditoriale, présentation, Christophe Caron. Montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.